Vous savez pas à quel point je tremble ce matin. Je tremble. Quand je suis venu sur terre, je savais que le Seigneur m'a préparé quelque chose. Je sais que je suis appelé à louer Dieu, à élever son nom par ma voix, par ma vie, parce que je suis. Mais d'apporter la parole de Dieu, c'est toujours quelque chose de difficile pour moi. C'est toujours quelque chose de un défi à chaque fois. Mais si quelqu'un est appelé par Dieu, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, tu es appelé à apporter la parole de Dieu. Alors ce matin, je me suis mis en tenue de combat. Voyez-vous, je suis tout en blanc ce matin. Ah, c'est pas moi. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans la parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! Allez-y, allez-y, allez-y. Que dit dans l'Apocalypse, par exemple? Qu'est-ce que ça représente dans l'Apocalypse? Ça représente tout simplement les œuvres justes. Les œuvres justes. Je viens ce matin, pas sous la condamnation, juste, même si j'ai fait un tout petit peu, même si j'ai fait juste à peine quelque chose de juste, je suis revêtu de ce que je suis revêtu de la justice de Christ à cause du peu que j'ai fait. Peut-être que j'ai péché tous les péchés du monde, mais ce matin, je viens vers vous en me revêtant du peu de juste ce que j'ai fait. Entrons dans la présence de Dieu avec cette conscience-là ce matin. Revêtez-vous du peu de juste. Peut-être que vous avez fait beaucoup, c'est vraiment très bien, mais revêtons-nous de ce qui est juste devant Dieu. Ce matin, il n'y a plus de condamnation. Hein? Amen. Amen, 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 il n'y a plus de condamnation. Amen. Amen. Ça fait longtemps que j'attendais aussi de pouvoir partager ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça fait longtemps que le Seigneur me l'a mis à cœur et j'ai l'impression que c'est quelque chose que Dieu veut absolument pour notre Église. La raison, c'est que d'abord, le Seigneur a pressé sur le cœur de Leïla. Je vais reprendre exactement le même message. Ça sortira de ma bouche, mais je reprends exactement ce que Dieu a posé dans le cœur de Leïla. Dieu a mis ça dans mon cœur depuis hyper longtemps. Et Dieu a travaillé mon cœur pour pouvoir amener ce message-là. Ce matin, nous allons parler de l'accès au cœur du Père. Nous allons parler d'accès. Nous savons que tout vient de Dieu, tout. Dieu le Père a créé toutes choses. Et la parole nous dit, tout vient de Dieu le Père. Dieu, Jésus même a dit, le Père est plus grand que moi. Nous savons que le Père est l'alpha et l'oméga, celui qui a créé toutes choses. Et quand il y a quelque chose qui arrive sur terre, qui se traduit par le visible, ça vient de Dieu le Père. Ça vient de notre Père. Et ce matin, nous allons parler de l'accès à toutes ces choses. Nous allons parler de notre identité. Qui sommes-nous pour pouvoir entrer dans toutes ces choses? Comment on fait pour entrer dans toutes ces choses? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'on doit avoir? Est-ce que c'est important de regarder de loin toutes ces choses? Ou est-ce que c'est important de rentrer dans ce qui est prévu? L'Église et dans cette perspective aujourd'hui, Opération Galilée. Opération Galilée. L'opération Galilée, c'est que Jésus est venu révéler le cœur du Père. Jésus est venu démontrer comment on fait pour vivre le royaume de Dieu. L'opération Galilée, c'est entrer dans ce que Dieu a prévu, s'emparer de ce que Dieu a pour moi, s'emparer de ce que Dieu a pour ta famille, s'emparer de ce que Dieu a pour ton ministère, ce que Dieu te confie. Il y a quelque chose qui est déjà là, dès le début, dans le cœur de Dieu. Ça a commencé il y a très très longtemps. Mais c'est difficile, c'est tellement difficile pour les chrétiens, comme on voit toujours la terre promise de loin. On le regarde de loin. Ce matin, nous allons entrer et nous allons voir comment on accède au cœur du Père. Si nous voulons accéder à toutes ces choses, il nous faut connaître le Père. Si nous connaissons mal le Père, nous allons avoir une sorte d'hésitation. C'est comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous n'allez pas être ami tout de suite avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si on le connaît bien, si on devient ami, si on devient quelqu'un qui est proche de lui, on va pouvoir profiter de ce qui est de notre, de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Le chemin que Dieu a choisi pour que nous puissions avoir accès à toutes ces choses, c'est la croix. La plupart d'entre nous, nous savons qu'il y a un aspect de la croix qui est l'accès pour nous vers Dieu. Nous savons que à la croix, le voile s'est déchiré, n'est-ce pas? Le voile s'est déchiré, nous avons accès à la présence de Dieu. Le lieu très saint, le lieu saint. Le voile s'est déchiré et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons entrer dans cet endroit. Nous savons que nous, à cause de la croix, nous sommes sauvés. Nous avons la joie de notre salut. Nous savons que à cause de la croix, nous avons la paix, la joie, la guérison. Voilà, comme ce qui s'est passé ce matin. Nous avons tellement de choses à cause de la croix. Mais la croix, il y a encore un autre aspect. Ça nous a permis d'entrer dans la présence de Dieu. Le voile s'ouvre, mais ça a permis aussi à Dieu de sortir, de venir vers nous. La Bible dit, celui qui était caché aux yeux des hommes peut se révéler maintenant. Il se révèle à nous. Donc ça a permis à Dieu de ne pas rester dans le ciel. Il vient, il descend sur terre et il nous ouvre les cieux et il se révèle. Ça, c'est le bénéfice pour Dieu. Donc il y a les bénéfices pour l'homme, il y a cette bénéfice pour Dieu. Pour aller plus loin dans ce que je voulais parler ce matin, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël. Donc, on va bien parler de l'accès à tout ce que Dieu a prévu pour nous, le cœur du Père. Les enfants d'Israël, Dieu les a sortis de la captivité. Dieu les sort de la captivité. Avant qu'ils sortent de la captivité, ils étaient encore en Égypte, encore entourés d'ennemis avec des combats. Ils étaient encore au mauvais endroit. Peut-être qu'ils étaient là au bon moment, mais ils étaient encore au mauvais endroit. Mais ils ne réalisaient pas, mais ils étaient protégés par le sang. Protégés par le sang. Ils traversent la mer Rouge par la puissance de Dieu et ils arrivent de l'autre côté. Ils arrivent de l'autre côté, imaginez-vous de ce que c'est de sortir de la captivité, de l'esclavagisme, de sortir de tout ce qui est très difficile pour un être humain. Pour nous qui sommes chrétiens, ça symbolise notre vie qui sort du péché, qui sort de tout ce qui est prison du péché, tout ce qui nous lie nos vies. Alors on sort, les enfants d'Israël sortent de la mer Rouge qui est vraiment le symbole de la croix de Jésus, qui représente la croix de Jésus. Et ils arrivent de l'autre côté. Ils se réjouissent, ils dansent. Il y a Myriam qui prend un tambourin et elle, elle marche au devant de toutes les dames et ils commencent à se réjouir tellement Dieu a changé quelque chose dans leur vie. Ils étaient en captivité et maintenant ils sont libres. Et ils se réjouissent maintenant, l'ennemi est complètement brisé. Parce que l'ennemi a été englouti dans la mer. L'ennemi est complètement vaincu. Nous sommes délivrés. Nous sommes maintenant un peuple. Nous sommes maintenant dans la marche de notre destinée. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu ne leur a pas permis de camper là. Ils sortent de la mer Rouge, ils se réjouissent, mais Dieu leur dit, vous ne campez pas là, vous ne restez pas là. Dieu a quelque chose d'autre pour eux. Il a un plan pour eux. Ayez toujours dans la perspective de ce qu'on vit en Église. Ce qu'on vit en Église, et il y a plein de choses maintenant. Au niveau des enfants, au niveau des jeunes, au niveau du groupe de louanges, au niveau des aînés, au niveau de ce qu'on vit au culte, Dieu est en train de faire quelque chose. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens campent à la mer Rouge. Ils campent à la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils construisent des buildings. Dieu dit, il y a quelque chose d'autre. Ils sont sortis de la captivité. Ils sont délivrés, sauvés, mais ils construisent leur vie à la mer Rouge. Et ils n'entrent pas dans le plan de Dieu. Ils n'entrent pas dans le plan de Dieu. Notre Église, vous savez, il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Nous le voyons petit à petit s'accomplir. Bien sûr que l'Église existe déjà aujourd'hui. Vous savez que dans notre Église, des visiteurs ont dit, mais cette Église est morte. Il y a longtemps donc j'ai dit ça. Des gens qui sont venus nous visiter, ils ont dit, c'est mort ici. Mais ça, c'est sans savoir le plan de Dieu. C'est sans savoir le plan de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, tous les secteurs de l'Église maintenant partent de la mer Rouge et vont en Canaan. Tout le monde part. Alors, si dans ta vie aujourd'hui, tu n'es pas encore parti, fais tes bagages. Ah, je ne sais pas. Je dis juste qu'il y a un truc qui part là. Quelque chose part maintenant. Alors, partons ensemble. Partons ensemble dans ce que Dieu a prévu pour nous. Dans certaines églises, souvent, on ne voit que la prédication du salut. La prédication du salut, c'est-à-dire le pardon de Dieu, le rachat de Dieu, et c'est ce qu'on prêche la plupart du temps. Et si on est évangéliste, si on est prédicateur de l'évangile, c'est ce qu'on prêche. Et c'est normal de prêcher ça. Mais il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Et je vais vous le révéler juste dans un instant. Mais on va déjà lire Luc 15. À partir du verset 12, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges pour manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Je disais donc que par la prédication, on parle du salut. On parle du fait que Dieu sort de la captivité. Et dans pas mal d'églises, c'est vraiment le message qu'on va entendre presque chaque dimanche. Mais si vous n'allez pas, si vous n'allez pas au fils prodigue, quand il est encore dans la maison de la prostituée, on manque quelque chose. On sait que Dieu sort de la captivité, mais il faut aller à cet endroit quand le fils aimé du père est encore dans la maison de la prostituée. Le fils, à ce moment-là, il aime son péché. Il aime totalement son péché. Il n'a même pas l'intention de sortir de son péché. Il aime avec endurcissement son péché. Et il ne voit pas. Il ne voit pas le danger de se trouver à cet endroit-là. Le pire des messages qu'on ne devrait jamais faire, c'est de prêcher à ce fils-là qui est encore dans le péché, de lui dire « Dieu t'aime ». Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le moindre envie de se repentir. On voit souvent ça dans les églises, on voit souvent, les gens viennent à l'église et on leur prêche l'amour de Dieu, ils ne sortent pas de leur péché, ils restent dans leur péché, ils viennent à l'église, on leur dit « voilà, Dieu t'aime », ils viennent à l'église, mais ils ne prennent pas la décision de sortir de leur péché parce qu'ils ne voient pas le danger. Parce qu'on leur dit, voilà, ça va, c'est bon, ça va aller. Dieu t'aime. Mais en fait, si on ne va pas à cet endroit-là, on leur dit, il faut se repentir. Quand le fils n'a pas l'intention de quitter son péché, qu'il aime son péché, il ne voit pas le danger de demeurer dans le péché, il n'est pas allé au bout de lui-même. Mais en fait, dans ce parabole, on voit que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans ce fils. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rappellera, il est dit, ouais, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, j'enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit rappellera les paroles du Père. C'est ce qui a été dit. Ce garçon s'est souvenu de la maison de son père. Le Saint-Esprit est vraiment été à l'œuvre. Donc, même quand il ne voyait pas, c'est à cause du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit a déjà commencé dans sa vie. Et le Saint-Esprit dit, voilà, je le convainc de péché. Il est convaincu de péché. L'œuvre de Dieu commence dans sa vie. Il commence à se souvenir de la maison de son père. Avec l'œuvre du Saint-Esprit, il commence à voir tout ce qu'on peut avoir dans cette maison du Père. La provision, la provision de la maison du Père. Il commence à le voir. Et en ayant tout ça dans les pensées, il s'est dit, voilà, je vais rentrer à la maison et je vais confesser. Je vais rentrer à la maison et je vais confesser. Je vais dire, j'ai péché contre Dieu et contre mon Père. Jusqu'à ce que ça arrive, cette révélation arrive dans le cœur de celui qui pêche, que ce n'est pas seulement contre ma femme, ce n'est pas seulement contre l'Église, ce n'est pas seulement contre des gens que j'ai péché, mais j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu. Comment on reconnaît qu'il y a une véritable repentance dans le cœur de l'homme? C'est contre Dieu qu'on pêche, c'est contre Dieu. Il peut se passer bien des choses entre nous, mais jusqu'à ce que cette révélation vienne, que ce n'est pas seulement contre les hommes, mais contre Dieu. C'est cette révélation qui nous amène vers la maison du Père. Et le Fils retrouve le chemin de la maison. Il rentre à la maison avec un cœur repentant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Jésus qui donne ce parabole. Et ce parabole, c'est vraiment par rapport à la grâce du Nouveau Testament. La grâce du Nouveau Testament. Les gens à qui Jésus donnait cette parabole, ils avaient 613 commandements et lois et règles pour essayer d'apaiser le cœur du Père par leurs efforts. Et Jésus vient, il confronte cette compréhension, il le confronte complètement, il dit, il le voit de loin, c'est le Père qui court. Imaginez le Père qui court. Et le Fils qui vient là, je vais dire, ben voilà, c'est quand même celui qui a dilapidé le... Hein? Et imaginez le Père qui vient. Le Père le voit. Il court vers lui et il l'embrasse. Il confronte complètement la compréhension des gens. Il va à l'opposé de ce qu'il pense. C'est Dieu qui fait l'effort. C'est Dieu qui fait l'effort qui vient dans notre vie. Moi, je me souviens, j'étais élevé dans l'Église, élevé et instruit dans l'Église. Mais ce qui était important pour moi, c'était le sport et le chant. Donc, mais à un moment donné, Dieu vient. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé en Suisse, mais c'est Dieu qui vient. Et littéralement, Dieu a couru dans ma vie, littéralement. Ça n'a pas duré une seconde, ça a duré comme ça, tac, tout d'un coup mon cœur, complètement à plat devant Dieu, convaincu de péché. Je me souviens de tout ce que je me suis souvenu, de ce que je peux être dans la maison de mon Père. On n'imagine pas à quel point Dieu met l'urgence dans le cœur des gens. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui restent à la mer Rouge. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui restent à leur place. Dieu court vers nos vies. Dieu met une sorte d'urgence dans nos cœurs pour changer les choses. Dieu l'a fait pour ma vie. Aujourd'hui, je regarde en arrière, je sais que mes péchés ont été pardonnés. Et je peux vous dire, j'en ai fait. Je sais que je suis racheté entièrement. L'accolade de mon Père, embrassé par le Père. Quelqu'un comme moi, un chanteur dans le monde que Dieu prend pour diriger la louange, la compréhension que c'était dans ma vie, je peux vous dire, c'est ne serait-ce que d'y penser, je ne me sens pas digne de cette place-là. Mais un jour, Dieu m'a révélé. J'ai quelque chose pour toi. Et il a couru. Et il m'a embrassé, il m'a mis en place. Quand je regarde en arrière tout ce que Dieu a fait, même si on prend une semaine, je peux vous dire, je vous témoignerai pendant une semaine de tout ce que Dieu a fait. Il y a tellement de choses. Ce parabole, le titre c'est pour le fils prodigue. Mais dans ce parabole, il y a bien plus que ça. C'est à propos du Père et de son délice pour son fils. Le Père et l'amour qu'il a pour son fils. Il le voit de loin, il ne lui laisse même pas le temps. Le gars, il vient pour confesser. Le Père ne laisse pas le temps. Il ne lui laisse pas le temps de dire quoi que ce soit. Il dit, allez chercher la robe. Brûlez ses vêtements, souillés par le péché. Va chercher la robe. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Le fils, il n'a même pas encore pu confesser ce que... Imaginez, voilà notre Père. Voilà notre Père. Ça aussi, je l'ai vécu. Je n'avais pas le temps de... Tac, tout d'un coup, il y a tout qui me vient dessus. La robe, l'anneau, les sandales neuves. Jésus voulait révéler qui est notre Père. Jésus voulait révéler tout ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Tout. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Je ne sais pas. Ça arrive que le Seigneur montre des situations particulières. Mais si aujourd'hui, vous êtes sur le chemin de la maison, si aujourd'hui vous êtes dans les parvis de la maison, voyez maintenant le Père qui vient et qui vous ne laisse même pas le temps de dire, de confesser quoi que ce soit. Juste une démonstration d'amour. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, il met tout ça sur lui et il lui dit, voilà, viens maintenant. On va aller dans la maison. Allons dans la maison et réjouissons-nous. Le projet du Père, c'est que ce fils, en ayant reçu tout ça, se réjouisse dans la maison. Mais imaginez maintenant, ce fils, il est dehors de la maison. Et il s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Je ne vais quand même pas... J'ai péché tous les péchés possibles et que maintenant, il vient, il m'embrasse, il me change mes habits. Il y a quelque chose dans le cœur. Il y a quelque chose dans le cœur. Il se passe quelque chose. Souvent, je réfléchis par rapport à tous les réveils qu'il y a eu sur Terre. Et je réfléchis par rapport à la Suisse. Et je réfléchis par rapport à notre Église. Tous les prédicateurs du monde entier, je peux vous dire qu'ils sont tous venus en Suisse. Ils sont tous venus en Suisse. Yonggi Cho, quand venu en Suisse. Derek Prince, venu en Suisse. Quand il s'est passé quelque chose à Pensacola, les prédicateurs viennent en Suisse. Il se passe quelque chose en Amérique latine, les prédicateurs viennent en Suisse. Tellement de choses se passent dans le monde, tous les prédicateurs viennent en Suisse. Les Suisses sont des champions du monde pour donner. Hein? Quand vous allumez la radio vers midi, 11h, comme ça, ça s'appelle la chaîne du bonheur. La chaîne du bonheur, les gens ils donnent pour donner à quelqu'un. La Suisse est champion pour donner. Même dans notre église, quand un malgache était en difficulté, l'église a donné. Nous sommes champions. Nous sommes très très bons dans ce domaine-là. Et oubliez vraiment, voyez-moi comme un Suisse parce que ça fait 20 ans que je suis là. Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais la Bible parle de donner et de recevoir. Donner et de recevoir. Maintenant, comment nous recevons? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour nous? Hein? C'est très difficile, hein? Vous voyez notre difficulté de recevoir quelque chose. Alors, il y a quelque chose de très très bien parce que tout est propre et en ordre. C'est vraiment génial. On a le savoir-faire et ça, c'est parfait. C'est des outils, mais vraiment énormes. Mais ce fils maintenant, revenons sur ce fils. Le père lui dit, viens à la maison. Il l'a habillé, il le met sur lui tous les signes extérieurs qui dirait que le Père a pardonné, le Fils, il dit, permets que je sois un serviteur. Hein? Il dit, permets que je sois un serviteur. Je ne suis pas digne d'être ton fils, permets que je sois un serviteur. Il essaie encore. Il essaie encore, malgré tout ce que le Père lui montre dessus, il essaie encore de se qualifier par lui-même, de mériter la faveur imméritée de Dieu. Parce que ce père-là, je vous dis, il a couru, il a montré, il lui a dit l'accolade et tout. Ben lui, il s'est dit, voilà, est-ce que je peux être un serviteur? Il y a quelque chose dans le cœur de ce fils. Et Dieu ne permettra pas pour qui que ce soit d'entre nous de nous qualifier nous-mêmes. Personne, il n'y a pas un seul. On va lire dans Colossiens 1, 12. Est-ce que quelqu'un peut lire parce que...
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. En fait, la parole de Dieu déclare que c'est le Père qui nous qualifie. C'est le Père qui nous qualifie. Si je retourne à la Suisse, c'est que c'est le Père qui qualifie la Suisse. C'est pas parce qu'on est bon. C'est pas parce qu'on est champion. C'est pas parce qu'on a fait ou telle chose. C'est le Père qui qualifie. Et le Père ne permettrait pas à qui que ce soit. Parce que c'est lui qui qualifie. Et c'est ce cœur-là que Jésus voulait révéler aux gens qui l'écoutaient. Que c'est le Père qui qualifie. Maintenant, si on sait qu'on entre dans cette perspective de vivre tout ce que Jésus a vécu dans la Galilée, on entre avec ce cœur-là que tellement le Père nous aime. C'est lui qui nous qualifie. Nous, on n'a rien à faire finalement. On n'a rien à faire finalement. On vient et on entre dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le fils restait en dehors de la maison, entendait maintenant le père dire, viens et entre dans la maison. Et finalement, le fils répond à l'appel, il entre dans la maison et le père dit, réjouissons-nous, festoyons, tout le monde fait la fête. Et le fils aussi fait la fête. Il chante, il danse. Et pendant que tout ça se passe, tout d'un coup, à un moment donné, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui vient sur ses pensées. Il s'est dit, waouh. Il va dans un coin, il s'assied dans un coin et il s'est dit, voilà. Waouh. Il y a comme une sorte de nuage de désespoir qui vient sur lui. C'est comme tout d'un coup, il réalise vraiment qu'il est vraiment dans la maison du Père. La maison du Père représente vraiment le pardon, la maison de notre pardon, la maison où on est accueilli comme nous-mêmes, sans le mérite. Et c'est dans cette maison qu'on a tué le veau gras. Le veau gras représente de goûter à tout ce que Christ a pourvu pour nous. La richesse de pardon de Christ. La richesse de la grâce de Christ, parce que c'est par grâce à la croix. Et il y a quelque chose dedans qu'il faut vraiment saisir, c'est que c'est bon. C'est vraiment bon. C'est quelque chose que Dieu donne sans mérite, sans quoi que ce soit, mais c'est super bon. Et c'est préparé pour chacun d'entre nous. Encore une fois, le fils, il se dit, bah, jusqu'à quand ça va durer? En fait, c'est comme s'il n'arrive pas à croire que le Père l'a vraiment, vraiment pardonné. Il a dit sûrement que le Père va changer d'avis. Sûrement qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. J'aimerais qu'on lise dans Galates 4, 6.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre chemin avec le Seigneur. Sûrement qu'on est tous dans la maison maintenant. Sûrement qu'on est tous devant le Seigneur et en train de vivre quelque chose avec Dieu. Mais ce qui arrive souvent, c'est que même en étant dans la maison de Dieu, même en étant racheté par le Seigneur, il y a encore des choses. Il y a encore des choses qui viennent sur les pensées, des sortes d'accusations. Oh, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez qualifié, tu ne fais pas la bonne chose, tu dis encore ça, tu n'es pas encore ci, tu n'es pas encore ça. Le Père dit, festoyons. En fait, l'opération Galilée veut dire festoyons. Il y a tellement de choses que le Père a prévues pour nous. Et il faut vraiment qu'on puisse passer au-delà de tout ça. Donc, Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Quand des choses viennent sur nos pensées, quand des choses viennent pour nous accuser dans tout ce qu'on a fait, il n'y a pas que ça. Il y a encore l'esprit de Dieu en nous. L'esprit de Dieu en nous nous rappelle déjà tout ce que le Père a fait, mais il crie en même temps. Sois conscient de ton héritage. Tu es fils, fille de Dieu. Fils et fille de Dieu. Ce n'est pas nous qui le crions. Ce n'est pas moi, je vous le dis. L'Esprit du Seigneur crie dans mon cœur. Ça, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai vu tellement de fois. Mais ces derniers temps, ce n'est pas moi qui vois, c'est ma femme. Vous savez qu'ils sont en train de préparer le cours pour le fondement biblique. Et ils l'ont préparé avec Nicolas et Alain. Ils travaillent ensemble. Mais je sais que Flo a porté ça depuis des années et des années. Et en voyant les inscriptions venir, elle dit, waouh, t'as vu, il y a un tel qui s'est inscrit. T'as vu, il y a telle inscription. Et elle s'est sentie honorée par le Père. Pour elle, le Père a vu tout ce qu'elle a investi pour préparer. Et elle n'est pas seule, bien sûr, Alain et Nicolas. Bon. Le Père a vu tout l'investissement. Le Père a vu et la touche. Et tout d'un coup, elle comprend. En général, c'est moi qui dis, voilà, ah, t'as vu comme le Seigneur m'aime. Je dis tout le temps ça avec elle. T'as vu comme le Seigneur m'aime. Ben là, c'est elle qui dit, t'as vu comme le Seigneur m'aime. Je dis, waouh, le Seigneur t'aime vraiment. Et c'est exactement ça, le Seigneur nous aime. Il a tellement préparé de choses. Aujourd'hui, on en est là et on va entrer dans cette période. On va dans cette période. Maintenant, imaginez. Imaginez tout ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu? Est-ce que vous pensez qu'il a tout fini maintenant? Hein? Encore une fois, le Seigneur a mis l'urgence dans notre cœur. Il court maintenant. Il court dans les vies. Vous savez que le monde est secoué. Vous savez que les finances sont secouées. Les nations sont secouées. L'Église est secouée. Vous savez qu'il y a tellement de jugements qui tombent aujourd'hui. Et ça, je vous assure que ça ne vient pas seulement des initiatives des hommes. Mais nous, le Seigneur nous voit de loin en tant qu'Église. Le Seigneur vous voit de loin. Maintenant, alors, commencez à voir dans votre vie, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce qu'il a prévu pour vous? Vous avez le droit de rester à la mer Rouge. Vous avez le droit de rentrer dans la maison de notre Père, de goûter à tout ce que Dieu a prévu pour vous. Vous avez le droit de vous emparer du morceau de vos gras le plus, on ne va pas dire le plus gras, parce que c'est pas... Le meilleur parti de ce que c'est, vous avez le droit de l'avoir. Et un jour, vous pourrez dire, voilà, moi, le Père même, il a fait ça, 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 ça. Vous regardez en arrière. Le Père a fait ça. Le Père a fait ça. Le Père a fait ça. Voilà ce que Dieu a prévu pour notre Église. Et quoi qu'il en soit, quoi que nous pouvons entendre, rien, rien ne peut nous enlever cette révélation. Rien, à cause de la parole de Dieu. Et à cause du Saint-Esprit qui est encore en nous. À cause de tout ce que le Seigneur fait encore. Est-ce qu'on peut prendre juste un temps, 2 ou 3 minutes juste, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et Anouk, si tu peux aller au piano, s'il te plaît. Il y a ce chant qui dit, Seigneur, je reçois ton amour. Seigneur, je reçois ton amour. Il faut vraiment que tu convainques ton cœur ce matin. Il faut vraiment que tu parles à toi-même. Et après avoir parlé à toi-même, il faut que tu écoutes ce que dit l'Esprit du Seigneur sur toi ce matin. Est-ce que tu es encore en dehors de la maison, en train de regarder, en étant revêtu de robe, en étant avec ta bague au doigt, les sandales, mais en dehors de la maison? Alors le Père te dit, viens dans la maison, viens dans la maison. Si tu es dans la maison maintenant, commence à espérer en lui. Et s'il y a des choses encore aujourd'hui difficiles, remettez toutes choses entre ses mains. Toutes choses. S'il y a un péché qui empêche, c'est le moment de le confronter. C'est le moment de l'enlever de ta vie. C'est le qui est plus de péché caché dans l'église. C'est le moment. Mais ce moment-là, c'est plus le délice du Père. C'est plus le cœur du Père. C'est plus tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire à notre Père? Si aujourd'hui tu es face à lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je crois qu'il est bon qu'on passe juste tout simplement à dire merci pour le rachat, pour tout ce que le Seigneur a fait. Commencez à dire merci à Dieu, commencez à prier et dites merci. Seigneur, merci. Merci pour le rachat de notre vie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta générosité. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Commencez à élever la voix et dites merci à Dieu. Dites merci pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Le jugement n'est pas tombé sur ta vie. Tout ce qui est mal est écarté à cause de Jésus-Christ. Ce qui reste pour toi, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de notre Père. Dieu tient à ta vie. Dieu tient à ton cœur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.